Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Le cannabis, c'est une plante maître, voilà, qu'il faut respecter, il faut faire attention. Donc je suis presque un petit peu, comment dire, conservateur, mais dans le mode indigène. C'est-à-dire, c'est une substance avec laquelle, si tu fumes juste comme ça pour rigoler et tout, tu ne vas pas forcément taper les bons espaces de cette plante. Voilà. Il faut toujours avoir avec le cannabis une belle intention, avec les plantes une bonne intention.
Faut que j'évacue ces mécaniques.
Eh ben non, t'as la nature, fourre pas tout seul.
La nature? Je lui chie dessus, la nature, moi. Je lui chie dessus.
Mais justement, c'est le moment.
Tu vas voir ce que je vais lui mettre à la nature. Tu vas voir.
Notre invité du jour a beaucoup, que dis-je, énormément de respect pour les plantes, et en particulier pour les plantes psychotropes.
Quand cet homme est high, quand il trippe, ce n'est pas pour s'amuser, mais pour se soigner, pour apprendre à mieux se connaître, pour repousser les limites de sa conscience.
Et si ça fait de longues années maintenant qu'il a raccroché avec le cannabis, en revanche, il a noué des relations avec des plantes plus puissantes, et il en a même fait le sujet central de son cinéma.
Car c'est un réalisateur que nous avons le plaisir de recevoir, il s'appelle Yann Kounen, c'est l'épisode 24 de Banana Kush.
Mais qu'est-ce que vous fumez, colonel ?
Des bananes.
Vous en voulez ?
Oh non, merci.
Moi, avec plaisir.
Le trafic de la banane connaît une embellie.
Une drogue interdite.
La banane tient la première place.
Et pourtant, un produit qu'on consomme la plupart du temps en cachette.
Rien ne peut résister au lobby de la banane.
C'est un fléau !
Nick, la radio présente Banana Kush, le podcast de culture du cannabis. Camille Diao, Christophe Paillet.
L'homme que nous recevons aujourd'hui est un homme de cinéma, tout terrain, touche à tout, expérimentateur et on peut le dire, iconoclaste. Yann Kounen est passé du film d'action à la comédie satirique, il a exploré le documentaire comme la réalité virtuelle.
99 francs, Coco Chanel et Stravinsky, plus récemment mon cousin, avec Vincent Lindon et François Damiens, il n'a jamais cessé de briser les codes du cinéma, que ce soit dans les thèmes qu'il a abordés ou dans sa façon de les filmer. Lui qui s'amuse beaucoup à recréer à l'écran l'expérience sensorielle des substances psychotropes.
On l'a découvert à la fin des années 90 avec Monica Bellucci et un Vincent Cassel en Doberman violent. Quelques années plus tard, il a fait triper le même Vincent Cassel sous ayahuasca dans Blueberry. L'ayahuasca justement, qui avec d'autres plantes psychotropes amazoniennes à l'usage traditionnel, est devenue l'une de ses obsessions. Il l'a filmé et refilmé, goûté, regoûté et re-regoûté, dans une démarche d'apprentissage spirituel entamée il y a maintenant plus de 20 ans.
Et le cannabis dans tout ça, y a-t-il de la place pour toutes les plantes dans ce même petit cœur d'homme ? Peut-on encore apprécier la fumette quand on a goûté au voyage cosmique des breuvages indigènes ? On en a parlé avec l'un des réals les plus barrés du cinéma français. Bon voyage.
Banana Kush.
La 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 la.
Camille Diao.
La 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 la.
Christophe Paillet.
La 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 la.
Et Yann Kounen, bonjour.
Bonjour.
On est ravis de vous recevoir dans Banana Kush. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes un réalisateur, on peut dire, iconoclaste. Et un des sujets fil rouge de votre œuvre, ça a été entre autres les plantes médicinales psychotropes. On y reviendra. Mais parlons d'abord d'une plante en particulier, le cannabis. Quel fumeur de cannabis êtes-vous ? Ou alors, plutôt, peut-être, quel fumeur avez-vous été, Yann Kounen ?
Oui, j'ai été parce que je ne fume plus depuis presque 20 ans, hein, mais je vous raconterai pourquoi. Mais la première fois que j'ai fumé assez tardivement, je pense j'avais 18 ou 17. On était partis avec des potes, avec une vieille Volkswagen noire mat peint à la bombe dans la montagne, et on s'était allongé pour regarder les étoiles. Et moi, je tenais à ce que mon premier joint, je le fasse face à la voûte lactée. Voilà. Après, comme la salade de riz était restée dans le coffre de la VV noire et c'était en plein été, on s'est pris d'un tox alimentaire. Mais l'expérience était bonne jusque-là. Le danger venait plutôt de la salade.
Ça veut dire que déjà à 18 ans, vous faisiez un lien entre une substance comme le cannabis et quelque chose de plus grand, la
nature, cosmos.
Le cosmos.
Ouais, c'est maintenant que je regarde En arrière, je me dis c'est assez dingue. Je pense que les plantes et les hommes ont une histoire et c'est inscrit en nous et qu'il faut juste avoir laissé faire certaines intuitions. Alors, à ma décharge, je dirais que j'étais un passionné d'un roman qui s'appelait Dune. Et dans Dune, il y avait l'épice. Et l'épice, j'ai toujours vu ça une métaphore comme celle des plantes. Je ne connaissais pas les écrits de ceux qui avaient travaillé sur justement la dimension sacrée des plantes. Mais l'épice m'avait profondément marqué. Après, quand je suis allé en Amazonie, j'ai compris pourquoi. Mais cette thématique de quelque chose qui vous permet de dialoguer, c'est ressentir sa place dans le cosmos.
Le joint a considérablement élargi ma vision de l'heure. C'est-à-dire que je me place désormais dans une perspective cosmique. Parce qu'attention, l'homme utilise 10% de son cerveau. C'est fondamental d'ouvrir la porte des 90% qui restent.
C'est hyper fort ce que tu viens de dire.
Et alors, ça s'était passé comment, justement, avant l'intoxication alimentaire?
Avant, super. Et c'est intéressant de regarder ce que ça provoque, parce qu'en fait, on remarque que ça provoque une expansion quand même des sens pas une dissolution du soi, mais d'un coup aussi la capacité qu'a notre imaginaire à être projeté ou on désire qu'il soit projeté. On a comme ça quelque chose avec le cannabis qui d'ailleurs fait travailler beaucoup le mental, hein, mais qui vous permet d'un coup naviguer, vous trouvez en train de naviguer dans des espaces que vous découvrez tout en y pensant, que vous matérialisez par la force de votre imaginaire. Et aussi sensoriellement, on devient plus alerte. Et donc souvent, je me suis fait, mais je sais qu'il y a plein de gens qui ont ça, qui ont un truc de peur ou de parano ou d'angoisse. Mais en fait, je pense que ça vous amène juste dans un sentiment, comment dire, d'un coup d'être plus vivant, de ce qu'est la vie, quoi. Et donc, du coup, de vous rappeler que vous êtes mortel, ou alors réveiller les peurs, ça réveille aussi, ça vous les placards, hein, c'est ça, c'est un truc que... Je pense que ni l'alcool, ni l'herbe, ni aucun psychotrope va vous transformer en quelque chose. Elle va juste libérer en vous une partie de vous-même. Et parfois, ce vous-même n'est pas forcément très beau. Donc moi, quand je me retrouve dans un endroit et que je vois quelqu'un qui a ou un coup avec un pétard de trop dans le nez ou un coup avec l'alcool dans le nez, c'est d'un coup une mine d'informations sur la nature de qui il est. Si le mec commence à être vraiment très lourd et pas terrible, eh ben, on sait juste que cet espace est en lui, il le cache ou simplement il se révèle à ce moment-là. Et de la même manière, j'ai vu par exemple... une actrice qui était plutôt discrète et avec l'alcool s'ouvrir et devenir flamboyante. Et donc là, je voyais quelque chose qui se révélait par l'alcool, mais qui était aussi d'elle, de cette force. Donc ça peut être dans les deux sens.
Nous serons au sommet de notre perception cosmique et sensorielle.
Et alors, après cette première expérience, quel fumeur avez-vous été? Quels usages vous en avez eu? Est-ce que c'était régulier, occasionnel? À quelles occasions?
Quand c'était planifié, c'était pour faire quelque chose avec. C'était pour être ensemble en faisant quelque chose. Par exemple, voir un film, en projeter un film sur un grand écran et donc inviter des potes et se dire, voilà, ce soir, on va se voir et on fumait. Parce que, justement, sensoriellement, quand on regarde du cinéma, je trouve, moi, qu'on est totalement projeté dans le film. C'est-à-dire qu'on est encore plus émotionnellement connecté au personnage, à l'histoire. Ou alors, au contraire, on voit complètement le fabriquer. C'est-à-dire qu'on a une
distance.
Oui, on a une acuité qui va dans un sens ou dans un autre. Alors bon, il faut bien choisir le film. Et puis ça, j'ai fait ça souvent, aller au cinéma pour ça. Je l'ai même utilisé dans une forme d'inspiration. Je trouve que ça a été toujours inspirant dans des moments de la fabrication d'un film. On va dire, oui, j'ai fumé jusqu'au Doberman, vraiment.
Alors les filles, on se pignole toujours sur les voleurs de poules?
Et tout le monde ne peut pas avoir la chance de torturer des petits dealers de 15 ans.
En l'incluant, et c'est vrai que par exemple, je regardais le montage en ayant fumé un peu, et d'un coup, j'avais des idées où je voyais le film d'un autre, je prenais une distance par rapport au film. Je l'ai plutôt utilisé en rapport avec la création, ou alors dans des aventures avec des potes, à se dire qu'on va aller à tel concert, ou voir tel film, ou aller faire une balade, et à un moment donné, ça va faire partie de ce voyage.
Ouais.
À quel moment vous avez arrêté? Vous nous avez dit que vous ne consommiez plus de cannabis depuis 20 ans.
Bah parce qu'après, je suis allé en Amazonie, et là, j'ai fait la rencontre des guérisseurs, et travaillé, et puis ça fait donc maintenant 20 ans, et ça continue. Et j'ai découvert que les plantes entre elles, il faut faire attention. C'est-à-dire, tu mélanges pas, tu vas pas fumer, prendre d'autres plantes. Et je suis rentré plus dans cette relation du type médecine avec les plantes. Et que pour fumer aujourd'hui, moi, si je devais fumer, il faudrait que je diète cette plante. C'est-à-dire que j'établisse une relation et un modus operandi des Indiens pour diéter une plante. Sauf que j'ai d'autres plantes qui m'intéressent plus. Les Indiens, ils disent qu'après, une fois que tu diètes une plante, tu l'as avec toi. C'est une médecine qu'il faut, avec qui tu relationnes. Et que si tu amènes au milieu l'herbe, elle risque de foutre le bordel. Donc, savoir le faire, ça demande beaucoup de travail.
Bienvenue dans le monde végétal, Jardiland.
Donc, en fait, il n'y a pas eu de désamour entre vous et le cannabis à un moment donné. Il n'y a pas eu un problème où vous vous êtes dit « Ah, je consomme trop » ou alors « Ah, ça me rend parano » ou « Ça me fait du mal ». C'est plus que vous êtes trop tombé amoureux de l'ayahuasca pour continuer le cannabis.
Et d'autres plantes hein, en Amazonie, il n'y a pas que celle-là, mais non, ce n'est pas ça. En fait, ce qui s'est produit, c'est que je l'ai compris à mes dépens. C'est-à-dire, un soir d'ailleurs, il y avait un ami qui passe à la maison, il allume un joint, je tire juste une taf, mais c'était très fort. Et je suis allé me prendre une douche, et en prenant la douche, j'étais là tranquille, et d'un coup, j'ai été plaqué contre la paroi, ou cru être plaqué. Hein. Mais en tout cas, j'ai été saisi par une vision de l'herbe du cannabis qui me secouait et qui me gueulait dessus, quoi, en fait, qui me disait mais comment tu me traites là, toutes tes copines, t'es là tout en amour et moi je suis juste un truc comme ça et tout ça. Et donc du coup j'ai passé la soirée à apaiser ça, à me relire en me disant voilà, maintenant si je veux aller plus loin avec cette plante, il fallait que je mette beaucoup d'énergie dedans.
La communion intime avec la nature, l'extase des sens, un sentiment grisant de liberté, l'osmose, quoi.
Comment ça a commencé tout ça? Comment est-ce que vous êtes parti en Amazonie? Comment est-ce que vous êtes tombé amoureux de plantes que vous avez découvertes là-bas?
Je me suis intéressé à cette idée d'état de conscience modifié et j'étais surpris de voir qu'il y a des plantes donc, qui sont des psychotropes. Hein. L'ayahuasca est interdit en France, au tableau 1, des drogues. C'est bien de le dire aussi, il faut prendre l'ayahuasca en France. Mais par contre, au Pérou, c'est trésor national du peuple indigène dans l'aspect traditionnel. Donc la même plante, elle est, d'un côté, c'est totalement le diable, et de l'autre côté, c'est quelque chose qu'on vénère. Mmh. C'est quand même étonnant. Donc ça m'intriguait. Je me suis dit, quitte à avoir une expérience avec un psychotrope très très fort, qui est la réputation de l'ayahuasca, autant le faire avec les indigènes, ceux qui savent. Et donc, comme je voulais une expérience de conscience, et que je suis un cinéaste un peu baroque, je m'étais dit, les plantes seraient un bon outil. Et donc, je suis parti pour cette raison-là. Après, tu pars comme cinéaste pour être inspiré, puis après, tu te prends une claque en Amazonie avec les Indiens, où d'un coup, ta réalité se fracture, tu vois, et t'es perdu, et là, une autre aventure commence, parce que c'est pas un sujet anodin, les plantes médicinales. Le sujet est tellement vaste qu'une vie ne suffit pas à faire le tour. Il y a certains des gens qui écoutent déjà avec ce que je viens de raconter, ils se disent « Oh putain, lui, il est perché, c'est grave, il a décompensé le garçon.
» Banana Kush, le podcast des cultures du cannabis.
C'est notre petit secret.
Banana split for my baby. A glass of plain water for me.
Alors tu sais que Spinoza a quelque chose à voir avec l'Orient.
Oui, oui.
Il y a quelque chose là-bas qui est très important dès que tu te pointes dans ces régions, c'est que les rapports sont complètement différents, les choses se passent dans les regards, il n'y a pas de blabla comme ici tout le monde jacte, tu vois, pour...
Bonjour, ça va?
Et il n'y a plus de... Tu vois, il n'y a plus le haut, il n'y a plus le bas, il n'y a plus de... Y a plus, t'as plus le nord, tu sais plus où est ta femme, tout ça c'est un bordel, mais agréable, tu vois. Non mais tu vois, c'est la fusion des quatre éléments. T'as le ciel, la terre, et puis l'autre, là, en tout cas, t'es complètement dans l'espace.
On a commencé à parler de l'Inde, où le cannabis trouve sa place dans un certain nombre de pratiques spirituelles, religieuses. Vous êtes allé tourner ce documentaire sur Amma, qui est une sorte de sainte, une figure qui fait le tour du pays pour offrir son étreinte et pour répandre un peu le bonheur autour d'elle. Quand vous êtes allé la filmer là-bas, est-ce que vous avez pu observer la place que peut avoir le cannabis dans la société indienne?
Non, en fait, j'ai pas observé ça vraiment, parce que c'est vraiment pas quelque chose qu'il y a autour d'Amma, de l'ashram et des... Et donc ça, j'ai pas vu ça. Par contre, effectivement, quand j'ai tourné certaines scènes, il y a une scène que j'aimais beaucoup dans le film. On était un matin en bateau et à Benares, à 6h du matin, et le soleil se lève, il y a une sorte de désert en face, comme une île, et on voit toute la ville qui est quand même une ville incroyable, la plus vieille ville habitée par l'homme de manière depuis 6000 ans. Hein. Donc c'est vraiment, on se croit dans un film d'heroic fantasy. Et je vois une petite tente. Et donc on est en train d'arriver en bateau, le bateau glisse et mon steadicammer descend faire le plan parce qu'il y a un sadhu en méditation. Mais le sadhu avait fumé. Il était en complète méditation, il chantait des mantras. On a tourné autour de lui, on a enregistré les mantras, on est reparti en bateau, il ne nous a pas vu.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots qui sont ces sadhus ?
Alors les sadhus, c'est comme des moines extrêmes, mais sans monastère. Et le monastère est le monde, et Dieu est partout. Et c'est vraiment radical. Pour les Indiens, c'est des manifestations du divin. Ils n'ont rien. Tu n'as rien, tu renonces à tout ce que tu as, tu vis de la mendicité. On te mendie ta nourriture et tu ne fais que prier et chanter et avancer dans un chemin spirituel de méditation profonde, de sadhana, de pèlerinage.
Et donc ils ont un usage spirituel et religieux du hashish.
Absolument, ils fument beaucoup. Mais ce que je trouve intéressant dans l'hindouisme et comme la plupart des religions, c'est l'encodage des plantes psychédéliques dans la religion même. Vous avez Shiva et autour d'elle la fleur qui est une datura, c'est-à-dire la datura c'est une plante psychédélique très très forte, enfin, qu'il ne faut surtout pas prendre parce qu'elle a une dose létale abordable assez rapidement. Et donc c'est un encodage plus direct. Aujourd'hui on ne voit pas forcément dans le christianisme de l'encodage de plantes psychédéliques, alors qu'il y en a dans la Bible, hein, le buisson ardent, on se demande si ce n'est pas juste une plante qui l'a... lui enflammer l'esprit en l'apprenant, en rendant c'est le nombre. Donc il y a des théories très précises
il
là-dessus.
Il a fumé le buisson ardent en fait.
C'est possible, il a fait une décoction qu'il a bu. Voilà.
Si Jésus, à la place de dire buvez ce vin, c'est mon sang, il avait dit fumez ce shit, c'est mes cheveux.
Finalement, vous, ce qui vous intéresse dans les drogues et dans les plantes et, psychotropes, c'est pas du tout l'aspect récréatif. Enfin, je pense qu'on l'a déjà compris en filigrane. Mais au contraire, vous êtes plutôt opposé à l'utilisation qu'on appelle récréative en Occident.
Je suis opposé à l'utilisation récréative des psychoactifs. C'est juste que je dis que c'est un peu dangereux, en fait. On se rend pas compte qu'on se pourrit un peu la gueule. C'est-à-dire qu'on commence à devenir un peu bête parfois, puis on rigole bien, et puis on commence à avoir des pensées cheloues, puis le lendemain on n'est pas très bien. Enfin, il peut y avoir ce genre de choses. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas dans une belle relation avec la plante. On n'est pas concentré que dans ça. Le cannabis, c'est une plante maître, voilà, qu'il faut respecter, il faut faire attention. Donc je suis presque un petit peu, comment dire, conservateur, mais dans le mode indigène. C'est-à-dire, c'est une substance avec laquelle... si tu fumes juste comme ça pour rigoler et tout, tu ne vas pas forcément taper les bons espaces de cette plante. Voilà. Après, les plantes, on peut rigoler, être en joie. Tu vois, c'est la vraie récréativité, elle n'est pas pendant le rapport avec la plante, elle est après. Et voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est plus, même pas forcément les plantes, c'est les états modifiés de conscience. Et aujourd'hui, il y a plein de manières d'utiliser ces états. Et je pense que la société qui arrive, elle va de plus en plus intégrer ça.
Cela pourrait signifier que ce segment du temps contient une spécificité cosmique intrinsèque. Un peu comme si c'était le point d'intersection de l'ensemble du continuum espace-temps, à moins que ce ne soit une vulgaire coïncidence.
Si on regarde les usages aujourd'hui autour du cannabis, il y a, j'ai l'impression, presque autant d'usages et de rapports à la plante qu'il y a d'usagers, et parfois la frontière entre... le récréatif, le purement festif et quelque chose qui est plus de l'ordre soit du thérapeutique, soit du spirituel, elle est ténue en fait. Donc quelle est la frontière entre l'usage purement festif et puis le moment où ça bascule dans autre chose, où on peut en retirer quelque chose de positif?
Je dirais que la frontière, elle est assez simple pour moi, mais c'est vraiment, c'est à partir du moment où par exemple on va fumer des joints et prendre de l'alcool et un peu se retourner la tête pour rigoler Et se mettre même en danger si on conduit ou quoi que ce soit, là on est vraiment dans ce qu'il ne faut pas faire. Si maintenant on va écouter de la musique, on va essayer de se mettre dans le cœur, on va essayer d'être bien, on va essayer de chercher de l'inspiration, on va être dans la nature, on va essayer de ressentir, on va mettre une énergie pour que ce qui se produit soit observé. Et voilà, c'est toujours se rappeler en fait que la plante est avec vous.
Le Seigneur soit avec vous.
C'est aussi ça. Il faut le voir comme un compagnon de route avec lequel on peut peut-être bien sûr rigoler, mais un truc joyeux et avec une petite concentration quand même, minimum de concentration.
Donc c'est dans la démarche, dans l'intention, et puis dans l'attention aussi, on peut dire que situe la frontière pour vous. Est-ce qu'il y a une frontière, à vos yeux, entre ce qui relève du coup du spirituel et du thérapeutique, du médical, dans l'usage d'une plante, ou est-ce qu'au final c'est exactement la même chose ?
C'est la même chose. Enfin, le but et l'acte et le but, c'est de la médecine, l'espace de travail, la salle d'opération, c'est le monde spirituel.
Il y a une autre plante que vous avez évoquée pour parler de sa dangerosité, pour parler de son effet d'addiction, c'est le tabac. Vous avez été fumeur de tabac, vous avez arrêté de fumer, et en 2016, vous avez réalisé un film documentaire Vapwave sur le monde de la vape et des vapoteuses au moment où on a vu arriver toutes ces nouvelles machines. Comment vous en êtes arrivé à vous intéresser à ce sujet-là ?
Je me suis intéressé à la vape parce que, effectivement, donc, j'étais fumeur, mais surtout parce que le tabac, c'est une plante aussi que j'ai diétée, par exemple. Et donc, pour moi, le tabac, c'est une bonne plante.
C'est vrai que ça fait partie de rituels amazoniens avec le râpé, etc.
Le tabac, c'est une bonne plante. Le problème, ce n'est pas le tabac, ce n'est même pas la nicotine, c'est la combustion. Vous faites des cigarettes avec de la roquette, vous ferez aussi mal. Donc, à partir du moment où vous n'avez pas de combustion, vous passez de l'addiction à la dépendance, c'est-à-dire une substance, quelque chose avec lequel vous aurez une relation dépendante, qui vous appelle, mais qui ne va pas vous abîmer. Donc, j'entendais tellement n'importe quoi autour de la cigarette électronique, en ayant un peu enquêté et découvert, qu'à un moment, j'ai fait un film militant, mais avec la communauté un peu de la vape, mais à me dire, mais attendez, il faut arrêter, il faut dire aux fumeurs qu'il y a une manière de recevoir cette nicotine, parce qu'elle a aussi des vertus, la nicotine, sur la concentration, sur plein de choses, d'avoir cette nicotine, mais sans vous abîmer. Et donc, du coup, j'ai fait ce film.
Dans les films de science-fiction de la fin du XXe siècle, les voitures volent, les robots ont une âme, l'homme a colonisé l'espace, mais l'on fume toujours du tabac roulé dans une feuille de papier. La consommation de tabac semblait faire partie de notre futur, quoi qu'il arrive.
Nous, ça nous a parlé particulièrement parce que pour ce qui est de notre sujet, le cannabis, en général, très souvent, il est consommé associé à du tabac, en combustion, dans ce qu'on appelle un joint ou un pétard. Et depuis quelques années, on voit aussi se développer des machines, des cigarettes électroniques, des vapoteuses qui permettent de vaporiser le cannabis et donc de profiter des molécules que sont le THC, le CBD, sans s'abîmer la santé. Est-ce que ça vous intéresse, ça aussi, ce type d'usage qui se développe ?
Forcément, parce qu'en plus, on se roule deux joints dans la journée, on se défonce plus qu'un paquet entier de cigarettes, parce que sans filtre, voilà. Donc oui, tout fumeur de joint qui va passer à des vape joint, ça sera bon. Sinon, il se fait des space cake, c'est super. Donc il se fait space cake vape. Il peut organiser une réunion de méditation en écoutant de la belle musique dans la nature, en mangeant des bonnes tranches de cake, et ça sera bien meilleur, bien sûr.
Un message pour tous nos auditeurs qui continuent à fumer leur joint avec du tabac.
Faites-vous des tartes.
On n'en a pas parlé ça, mais vous, l'ingestion de cannabis, vous avez expérimenté, j'imagine.
Oui, j'ai expérimenté à Amsterdam. J'étais jeune, mais quand même, c'était délirant. Ouais. C'était délirant. Et une fois, j'ai expérimenté de quelqu'un qui avait fait un gâteau, qui me l'avait donné. Mais là, par contre, j'avais commencé à être un peu avec les plantes. Et donc, on l'a mangé comme un rituel. C'est-à-dire qu'on a fait un rituel avec trois amis et on a mangé la part de gâteau. Voilà, et on s'est dit, on va écouter des chants de guérisseurs et on va essayer de retrouver cette connexion qu'on a et tout. Sauf que c'était d'une force. Et là, il y a mon téléphone qui a sonné, j'ai pas la force de le prendre, heureusement, parce que là, moi, on avait un peu peur, on sait pas dans quel espace on va. J'ai même pensé, je dis, c'est fini, je ne vais pas revenir. C'est dommage. J'avais fait des choses bien, cadré avec les Indiens qui m'amenaient vraiment aux frontières. J'avais suivi le truc, mais j'étais très calme intérieurement. J'avais suivi le truc et là, voilà, j'ai fait une connerie, c'est fini. Je ne retrouverai plus jamais la raison. C'est terminé, l'histoire est pliée, mais j'étais très calme. Je dis, voilà, c'est fait. Adieu. C'est con, hein ?
Je meurs ! Je meurs !
Donc ça, c'était mon délire, on va dire, de mon voyage. Et quand on est quand même revenu 12 heures plus tard, je suis allé prendre mon téléphone et j'écoutais le message. Et là, j'avais comme dans les films, comme les films de Chichen Chong que j'adorais voir, il y avait un message de mon pote. Énervé, fait, surtout ne mange pas le gâteau, je me suis complètement bourré dans le dosage. Donc attention au gâteau.
Et ça vous a pas donné envie d'en faire un film, ça, parce que ça pourrait commencer comme ça.
Oui, absolument. Ces histoires-là, c'est de bonne inspiration. Mais j'ai failli faire un film, figurez-vous que ça, vous l'auriez aimé, qui s'appelle Dog Walkers, tiré du roman de Ian Levinson, Les promeneurs de chiens. Mm-hmm. Et c'était trois mecs à la ramasse, donc c'est à Pittsburgh dans le roman. Et moi, c'était dans le nord de la France. Et c'était trois mecs pas tout jeunes, un peu de mon âge, en perdition complète, mais qui fument des joints et qui se font des tripes et qui veulent monter un casque, mais ils font que fumer. Je ne vais pas spoiler trop le roman qui est formidable. Et donc, je devais faire, en fait, une sorte de Freaks Brother tiré de ce roman et que j'ai essayé de monter ce film pendant 3-4 ans. Et ben voilà, le cinéma n'a pas voulu. Ils ont eu peur de moi. Ils ont dit, va encore faire des visions pendant un quart d'heure. Mais pas du tout. Il y aurait eu des choses beaucoup plus drôles et beaucoup plus simples. J'ai un peu traumatisé les gens de cinéma. Dès qu'il y a quelqu'un, si c'est dans un scénario qui allume un joint... Les producteurs disent, mais tu vas pas nous faire des visions pendant 25 minutes. Non, voilà. Donc c'est pour ça que je peux pas mettre plus de plantes dans mes films, parce que j'ai du mal à, en amont, on a un peu peur, quoi. Mm. Je pense que j'ai souvent métabolisé des choses de l'ordre des expériences modifiées de conscience dans le cinéma, mais enfin, tout le monde le fait, parce qu'en fait, le cinéma est une expérience de conscience modifiée. Tu vois, si à partir du moment où tu enlèves le son et tu te rapproches au ralenti d'un personnage, en fait, en soi déjà, c'est comme tu as fumé d'un coup et tu focalises sur le chat que tu vois comme un félin, que tu as l'impression que c'est ton chat, hein, mais tu as l'impression que c'est la première fois que tu vas et qu'il va te sauter dessus. Et donc, tu fais cette espèce de travelling avant et il se transforme. Voilà. Le cinéma utilise dans son langage des choses propres sensoriellement aux états modifiés de conscience qu'on peut avoir avec des plantes.
Nick, la radio.
Ça, c'est la banane qui va redonner la banane à la France. Parce que si t'as la banane, t'as la cerise. Si t'as la cerise, t'as le gâteau. Si t'as le gâteau, t'as la crème. Si t'as la crème...
Banana Kush, le podcast des cultures du cannabis.
Le cannabis a aussi des vertus thérapeutiques qu'on est en train de plus en plus de découvrir et d'expérimenter, des propriétés anti-inflammatoires, relaxantes, etc. Est-ce que c'est un usage, vous, que vous avez déjà eu du cannabis ?
Non, je ne l'ai pas eu, mais le cannabis thérapeutique, c'est très important, parce que pour soulager la douleur, je pense qu'il y a plein d'usages qui vont venir. En fait, on est debout sur un énorme paradoxe. Et une vérité simple, ce qui a été bien mieux énoncé en mots par Terence McKenna, mais qui dit grosso modo, voilà, c'est pas pour nous protéger que la société interdit le cannabis et l'usage des psychoactifs. C'est pas pour nous protéger, c'est pour se protéger. C'est ça la grande frontière. Parce qu'on sait bien que pour se protéger, il faudra interdire peut-être l'alcool, dans ces cas-là qui provoque beaucoup plus de morts, de souffrances, d'addiction. Hein. Il y a même le tabac.
Le tabac
qui,
ouais,
voilà.
Ouais.
Mais que le cannabis et les psychotropes, et on peut mettre là-dedans les plantes et même rajouter le LSD, etc. Voilà, il y a eu des abus dans les années 70, les mecs ont fait n'importe quoi en sauvage, hein, c'est-à-dire en mélangeant tout, en faisant n'importe quoi. Et donc, il y a eu des accidents, etc. Mais si c'est un petit peu cadré dans les dosages et tout, il n'y a pas de mort, c'est pas dangereux, quoi. C'est pas dans les substances dangereuses. Si la société l'a mis là, c'est par contre, c'est que l'individu qui va utiliser ces substances ou qui va relationner avec ces substances, il va commencer à déconstruire la société. Pourquoi travailler, pourquoi... Et moi, c'est vrai que ça a été un des chocs avec les substances amazoniennes. Au-delà des visions que tu as, tu regardes, tu sors dans la rue et tu te dis, mais pourquoi on a construit des fenêtres carrées, pourquoi des fourchettes et des couteaux? Tu as, à un moment donné, tu as une espèce de mise à jour. D'un coup, tu commences à regarder ta société en me disant, est-ce que ce que je pense n'est pas ce qu'on m'a appris?
Dites-moi, croyez-vous en votre fort intérieur que vous soyez mentalement touché?
Loin de là, docteur. Je suis même un vrai petit bijou de la science.
Ce que je trouve intéressant dans ce que vous nous dites, c'est que vous faites finalement une sorte de grand continuum entre toutes les plantes, peu importe leurs effets. On a l'habitude en France, en Occident, de faire un peu cette distinction entre les drogues qu'on appelle douces et les drogues qu'on appelle dures. On considère généralement que le cannabis, n'ayant pas un effet psychotrope extrêmement fort, rentre dans cette catégorie des drogues douces, contrairement aux substances psychédéliques qu'on trouve dans d'autres plantes. Mais pour vous, finalement, ça participe de la même chose.
Oui, pour moi, il y a les plantes psychédéliques qui sont des plantes maîtres, en fait. C'est une population particulière au sein des plantes, mais je regrouperai avec les plantes, mais aussi les champignons. Voilà, les différentes substances qui, dans la nature, sont psychédéliques. Voilà pourquoi produisent-elles des molécules qu'elles n'utilisent pas, qui n'ont pas que d'autres fonctions découvertes par l'homme que de venir se ficher dans le plus important des neurorécepteurs de notre cerveau. N'est-ce pas un moyen de communiquer interespèces qui se créent pour avoir une alliance entre les deux et pouvoir entamer un dialogue, hein. Mm-hmm. Après, dans ces plantes, il y a des plantes avec lesquelles il faut faire très attention parce qu'il y a des dosages mortels rapides. Et il y a des plantes, après, qui sont de moins en moins dangereuses parce que même s'il y a surdose, vous pouvait encore tenir le cap. Et c'est vrai que le cannabis fait partie des plantes. C'est aussi pour ça qu'elle est plus consommée, je pense, dans lequel il est difficile de mettre sa vie en danger en faisant une surdose. Hein, c'est clair, si on ne prend pas le volant.
Mais alors, l'appel à la nature, qu'est-ce que c'est ? C'est une manière d'argumenter qui consiste à inférer les qualités d'un objet, d'un comportement, de n'importe quoi, en établissant à quel degré cette chose peut être qualifiée de naturelle. Regardons la nature ! Vérifions si tout ce qu'on y trouve est bon, comme la variole, la peste, les venins et poisons dont regorgent les plantes et les animaux et...
Les plantes seront acceptées dans la société si elles ne produisent pas les effets mentionnés plus tôt, à savoir un questionnement de la société. Par contre, si elles permettent à l'individu d'être plus équilibré et efficace dans la société dans laquelle il vit sans la questionner, c'est possible. Donc, la grande chance, c'est le microdosing. Plus je pense que le cannabis fumé, à moins qu'on réduise, mais c'est aussi le CBD, qu'on enlève les principes actifs, si les enjeux du microdosing dans la Silicon Valley ou les créatifs ne vont pas faire une expérience hyper forte forcément de conscience, mais vont avoir un petit dosage et être plus efficaces, c'est ce qu'ils disent, hein, dans leur travail.
Et ce qu'on dose souvent, juste pour le préciser, c'est la molécule qu'on trouve dans les champignons, il me semble, la psilocybine,
absolument,
si je ne dis pas de bêtises, qui est censée rendre plus créatif et sans qu'on subisse les effets psychoactifs et psychédéliques de cette molécule.
Parce qu'en fait, il y a un monde complet, inconnu et un potentiel énorme. Notre monde est fait d'une façon de prendre les énergies des choses pour les mettre à son usage. C'est l'intention qui est derrière ça est importante. Il faut toujours avoir avec le cannabis une bonne intention, avec les plantes une belle intention de partage, d'amour, de joie, de respect.
L'ombre de ces arbres étaient mes amis.
Mais ça me paraît une conclusion parfaite. Merci Yann Kounen. Vous restez avec nous. On se retrouve juste après le générique pour la banane de fin. A tout de suite.
D'où viennent les centaines de milliers de tonnes de bananes que nous retrouvons été comme hiver sur nos étals.
Ring, 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 banana phone.
Vous avez entendu Yann Kounen, c'est l'intention qui compte et on se doit tout de même de vous mettre en garde une nouvelle fois. Les plantes comme l'ayahuasca sont évidemment interdites par la loi française et leur usage ne doit surtout pas être pris à la légère. D'ailleurs, ce qu'on appelle le tourisme chamanique qui se développe parfois à des niveaux industriels fait beaucoup de dégâts en Amazonie.
Après cet entretien, Yann Kounen a remis son équipement de freerider cyberpunk tout droit sorti d'Akira. Il a enfourché sa monstrueuse roue gyroscopique de 25 kilos et il a fendu l'air parisien tel un fantôme urbain, un mirage motorisé, un cyborg perché.
Il a une tête de camé.
Est-ce que cette interview a bien eu lieu d'ailleurs, Christophe ? J'ai comme un doute qui me prend.
Peut-être était-ce une vue de notre esprit, un état de conscience modifié. Qui sait ce qu'on va découvrir en réécoutant l'enregistrement ?
En tout cas, on espère qu'il s'agissait bien du 24e épisode de Banana Cush. Camille et Christophe, enfin je crois.
Ils ont tous des têtes de camé.
Charlène Nouilloux, à la réal, il me semble, mais...
Ce travail ingrat, Charlène l'endure avec philosophie.
N'était-ce pas un songe ?
Pince-moi, vérifie. On se retrouve comme toujours dans 15 jours. Restez bien à l'écoute jusqu'à la fin pour ne rien rater de la banane de fin.
Yann Kounen respectera-t-il son abstinence face au terrible dilemme que nous lui soumettrons ?
Réponse juste après le générique. Salut.
Blanche-Neige, Sticky, Trip & Joint, Hervé voyage au bout de l'acide lysergique, dithylamide et la nuit.
Et ben voilà, c'est l'heure de la traditionnelle banane de fin, Camille.
Eh ben oui, Yann Kounen, comme à notre habitude, on va vous proposer deux bananes, une verte et une jaune. À vous de choisir avec laquelle vous repartez.
C'est cadeau.
Merci. Alors, je vais partir avec la banane jaune, pour les raisons que je vous ai dit, parce que les bananes vertes, je fais vachement attention avec les bananes vertes. C'est, voilà. Mais merci, mais les bananes, j'aime énormément les bananes et je souhaite une longue vie et plein de beaux, de belles façons de déguster les bananes vertes. Ça, c'est très important.
Quand même.
On vous laisse avec la jaune. Alors, ben, merci encore et
merci
puis
à
bientôt.
Merci, au revoir.
Attention, la consommation de cannabis est illégale et dangereuse pour la santé. Information et prévention sur drogueinfoservice.fr.
In the island of Jamaica, every
Everybody loves banana. Mexicana like it.
Banana.
Bad, bad.
Banana.
Nice, nice.
Banana.
Sweet, sweet.
Banana.
Light, light.
Banana.
Bad, bad.
Banana.
Young girl like it.
Banana.
Old lady like it.
Banana.
She doesn't like it.
Banana.
I don't want it.
Banana.
Banana duro.
Banana.
Banana tieso.
Banana.
Banana perverso.
Banana.
Banana travieso.
Banana.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.